Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le moment est venu pour le monde entier de lutter contre le racisme. C'est en ces termes que le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi à la mort tragique de cet afro-américain George Floyd par en fait de la police américaine. L'Iran prendra des mesures légales et pratiques contre la révocation par les États-Unis des dérogations aux sanctions, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Une semaine après la mort tragique de George Floyd, la tension aux États-Unis ne retombe pas. La chancelière allemande Angela Merkel rejette l'invitation de Trump de participer au sommet du G7 à Washington. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, rectifiant un tweet de son homologue américain Mike Pompeo, lancé il y a 2 ans contre l'Iran, a posté sur en fait, la page Twitter un message qui souligne « Le moment est venu pour le monde de lutter contre le racisme ». Mohammad Javad Zarif publiant l'image d'un tweet émis par son homologue américain Mike Pompeo le 27 juin 2018 contre l'Iran, l'a republié avec des expressions similaires, retouchées à l'adresse du peuple américain et qui écrit « Certaines personnes ne pensent pas que la vie des Noirs compte. À ceux parmi vous pour qui la vie des Noirs est importante, il est temps que le monde lutte contre le racisme. Le monde contre le racisme », a souligné sur sa page Twitter le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. L'Iran a fermement condamné la récente décision des États-Unis de mettre fin aux dérogations aux sanctions dans un accord nucléaire historique signé entre l'Iran et les puissances mondiales en 2015, promettant de prendre les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour contrer les effets négatifs du déménagement. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que la décision des États-Unis de mettre fin aux dérogations aux sanctions pour la coopération nucléaire internationale avec l'Iran constituait une violation flagrante de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui approuve l'accord sur le nucléaire officiellement connu sous le nom de plan d'action globale conjoint et de la charte des Nations Unies. Il a déclaré que la République islamique d'Iran suivra de près les impacts techniques et politiques de cette décision et prendra les mesures pratiques et juridiques nécessaires si elle affecte négativement les droits nucléaires de l'Iran reconnus dans les documents internationaux et l'accord du plan global d'action conjoint. Cette décision ignore les droits inhérents de la République islamique d'Iran et perturbe l'ordre public international, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La lutte contre les États-Unis et le régime sioniste est l'un des principes aux fondamentaux du Parlement iranien, a souligné le nouveau président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Le nouveau président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que le 11e Parlement, fondé sur les principes fondamentaux de la révolution islamique, se dresserait avec compétence contre l'ennemi extérieur, en particulier les États-Unis et le régime sioniste. Le nouveau président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié d'inutile et de nuisible le fait de négocier avec les États-Unis. Une semaine après la mort tragique de George Floyd, la tension aux États-Unis ne retombe pas. Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué plusieurs grandes villes des États-Unis placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la colère qui s'est emparée du pays depuis la mort de George Floyd. Un peu moins d'une semaine après le décès de George Floyd, la tension aux États-Unis ne tombe pas. Dans la soirée du 30 mai, dans l'état du Minnesota, des agents en tenue anti-émeute ont chargé des manifestants qui ont défié le couvre-feu, les repoussant avec des fumigènes et des grenades assourdissante. Pour reprendre le contrôle de la situation, le gouverneur du Minnesota a annoncé la mobilisation de 13 000 soldats de la garde nationale de l'État, une première, et a demandé l'aide du ministère de la Défense. Des affrontements ont également eu lieu à New York, Philadelphie, Los Angeles et Atlanta, conduisant les responsables de ces deux dernières villes, ainsi que ceux de Miami et Chicago, à annoncer à leur tour un couvre-feu. À New York, plus de 200 personnes ont été arrêtées. La Russie a livré des chasseurs sophistiqués et modernisés MiG-29 à l'armée syrienne. Une source militaire a indiqué que dans le cadre de la coopération militaire et technique entre la Syrie et la Russie et lors d'une cérémonie organisée dans la base de Hemaimim, la Russie avait livré des chasseurs russes sophistiqués et modernisés MiG-29 à l'armée syrienne. Dans une déclaration à Sana, la source a fait savoir que les chasseurs considérés comme plus efficaces que leur génération précédente avaient survolé la base de Hemaimim vers leur position dans les aéroports militaires syriens, soulignant que les pilotes syriens commenceront au 1er juin 2020 à survoler les espaces aériens syriens à bord de ces chasseurs, ces avions de combat qui sont plus efficaces que leur génération précédente ont volé de la base aérienne de Hemaimim vers leur zone de déploiement dans les bases aériennes syriennes, a indiqué la source. Les nouveaux MiG-29 entreront en service au sein de l'armée syrienne. Les avions de chasse patrouilleront l'espace aérien syrien. S'agissant du Yémen, les médias yéménites, citant des sources bien informées, ont fait état du retrait clandestin des militaires saoudiens et officiers américains de leur base à Ma'arib. Selon ces sources, ces militaires y ont laissé leurs équipements et affaires pour que leur déplacement n'attire pas l'attention. D'autre part, les combattants d'Ansar Allah ont réussi à marquer des progrès à proximité de la ville de Ma'arib, à prendre le contrôle des hauteurs stratégiques d'Alaq dans la région de Medral. Ces hauteurs surplombent la base militaire de Mas qui appartient aux forces pro-Hadi. Les combattants d'Ansar Allah ont assiégé cette base depuis trois axes et sont en train d'avancer depuis le désert d'Al-Jaouf vers la ligne internationale à Ma'arib au sud. La chancelière allemande Angela Merkel ne participe pas au sommet du G7 à Washington en raison de la pandémie de coronavirus, a rapporté l'agence de presse allemande, citant le porte-parole du gouvernement. Le président américain Donald Trump a déclaré, c'était le 20 mai, qu'il souhaite un véritable sommet du G7 à Washington fin juin, en signe de normalisation après la pandémie. Le sommet devait initialement se dérouler du 10 au 10 juin lors du séjour présidentiel à Camp David dans le Maryland et en mars. Cependant, le gouvernement américain avait annulé le sommet en raison de la pandémie et a prévu une vidéoconférence à la place. Madame Merkel avait au départ suspendu sa réponse à Monsieur Trump quant à son éventuelle participation à la vidéoconférence. Quelle que soit la forme de cette réunion, que ce soit une vidéoconférence ou une autre organisation, je lutterai certainement pour le multilatéralisme. C'est très clair, tant au G7 qu'au G20 avait déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. La Chine pourrait mettre un vaccin sur le marché d'ici à la fin de l'année. La Chine pourrait mettre un vaccin contre le COVID-19 sur le marché d'ici la fin de l'année. Le gouvernement chinois vient de l'indiquer sur les réseaux sociaux. La Chine pourrait être en mesure de mettre sur le marché un vaccin contre le coronavirus d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré la commission d'administration et de supervision des actifs publics chinoises sur les réseaux sociaux. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La clé du succès du Hezbollah face à Israël, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Un expert militaire et stratégique libanais a qualifié la libération du sud du Liban de l'occupation sioniste de sans précédent dans l'histoire de la confrontation avec ce régime, affirmant que la libération du sud du Liban en 2000 était une étape clé du conflit avec l'ennemi sioniste. Amin Hotait, célèbre expert militaire libanais, a tenu à faire allusion aux stratégies de la résistance pour faire face au régime sioniste et de déclarer « La première stratégie, compte tenu des équipements disponibles, était la stratégie de harcèlement des occupants. Cette stratégie s'est ensuite développée pour devenir une stratégie d'intimidation et de peur chez l'ennemi. La troisième stratégie consistait à créer un coût élevé pour l'ennemi. La quatrième stratégie a placé l'ennemi devant un dilemme. Soit il devait poursuivre l'occupation et payer un lourd tribut, soit il devait se retirer du sud du Liban dans le cadre d'une nouvelle stratégie. De nos jours, ces quatre stratégies de la résistance ont été institutionnalisées, créant des équations sur le fond de combat pour un face-à-face entre la résistance et l'ennemi sioniste, précise Amin Hotait et de poursuivre. En effet, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, avait prévu une telle perspective en 2000. Face au danger, nous ne parlons jamais de la fin des agressions de l'ennemi. Elles seront de plus en plus grandes qu'auparavant et nous réfléchissons à une victoire plus grande que celle du mai 2000 et à ses conséquences stratégiques sur la survie du régime occupant et de l'ensemble du projet sioniste dans la région, disait-il. C'est Hassan Nasrallah dans son discours de 2002. Ces propos du secrétaire général du Hezbollah libanais n'étaient pas une simple prise de position politique clairvoyante. Par contre, la résistance a créé un ensemble d'équations sur le terrain, dont les plus importantes sont équations de dissuasion au sol. Cette équation se manifeste dans les coups douloureux de la résistance contre les positions du régime d'occupation le long du front de combat sur les chambres de Cheb Abd et de Kafred Shuba jusqu'au Golan occupé et sa confrontation décisive avec les agressions de l'ennemi sur les terres. conflits spéciaux développés. L'aspect le plus évident de cette équation est de repérer dans les actions des combattants de la résistance à l'intérieur du village de Qajar, situé à la frontière entre la Palestine occupée et le Liban. Les chaînes de télévision ont toujours publié des images du déploiement de ces forces dans le village de Qajar et de leurs opérations contre les positions ennemies. Équation de la dissuasion aérienne. Cette équation est une réponse décisive et ferme à de nombreuses violations de la souveraineté aérienne et terrestre du Liban par l'ennemi sioniste. La première riposte en était le lancement de l'avion de reconnaissance Mersad 1 en 2004 dans le ciel du front nord de la Palestine occupée. Selon le secrétaire général du Hezbollah libanais, l'avion était capable de transporter de 40 à 50 kilos d'explosifs, ce qui représentait une menace aérienne majeure pour l'ennemi. Après s'être rendu compte qu'il ne pourrait pas remporter une victoire écrasante sur le Hezbollah, l'ennemi sioniste a décidé de compter sur l'équation de l'équilibre de dissuasion et de reprendre ses opérations et projets stratégiques, dont le nouveau Moyen-Orient et le Grand Israël, parallèlement au développement des capacités balistiques de la résistance. Tous ces projets ont été neutralisés par l'axe de la résistance, précise Amin Hotait. L'acquis le plus notable du Hezbollah dans le sud du Liban a peut-être été la victoire du projet de la résistance sur le front de bataille. La résistance a su mettre un terme au mythe de l'invincibilité d'Israël et prouver cette réalité qu'Israël est plus faible que de la toile d'araignée. A conclu en ces termes son article Amin Hotait pour expliquer ses quatre stratégies de résistance pour faire face à l'ennemi israélien.